Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, je reçois le professeur Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer. Bonjour Jacques.
Bonjour Viviane.
Je suis très heureuse de vous recevoir et je voudrais que tout d'abord vous expliquiez, parce que tous nos auditeurs ne le savent pas, ce que c'est que la Fondation Martin Bodmer.
Alors la Fondation Martin Bodmer est un site magnifique d'abord, avec une vue imprenable sur le lac, qui est ici tout près de Vendeuve, puisque c'est à Coligny. Et le parc et jardin est lui-même un enchantement. Le musée est souterrain, il a été construit par l'architecte tessinois Mario Botta, il a été inauguré en 2003, il fait deux étages. Le caractère souterrain est souhaitable parce que les documents que nous montrons, que ce soit des papyrus, des parchemins, des papiers, sont vulnérables et sont particulièrement sensibles à l'agressivité de la lumière. Donc, il est bien qu'il y ait un éclairage tout à fait
confidentiel quand on se promène, oui,
dans le musée. Mais du coup, là, ce qui tient lieu de plafond à cette arche de Noé enterrée, c'est une terrasse absolument magnifique où Mario Botta a pu donner le meilleur de lui-même, cette alternance de marbre gris, de marbre blanc, qu'il affectionne tout particulièrement. Alors, c'est une fondation qui a été créée en 1971, au moment où Martin Bodmer allait mourir, c'est-à-dire c'est à 3 semaines de sa mort, le 2 mars 1971, qu'il a conclu un accord avec le Conseil d'État du canton de Genève. C'était surtout André Chavannes, le ministre de la Culture, qui a beaucoup œuvré pour que cette fondation se fasse.
Alors, qui était Martin Bodmer?
Alors, Martin Bodmer est issu d'une grande famille patricienne de Zurich, qui avait fait déjà fortune durant le 19e siècle.
Et vous avez fait fortune dans quoi?
Alors, dans le commerce de la soie, dans la fabrication de la soie, toute la chaîne de production de la matière première et jusqu'à la fabrication d'un fil révolutionnaire par sa finesse et sa solidité. Donc, il y avait de nombreux Bodmer à Zurich, mais disons, cette branche-là avait une fortune solide. Et Martin Bodmer n'a pas eu à bâtir sa fortune quand il est né à Zurich en 1899. Par contre, il s'est destiné à des tâches élevées et en particulier à œuvrer pour un idéal de paix, c'est-à-dire lutter pour rassembler les conditions pour qu'il y ait plus de paix dans le monde. Et sa collection est absolument dictée par cet idéal-là.
Alors, c'est une bibliothèque exceptionnelle, n'est-ce pas, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO?
Voilà, c'est une bibliothèque répond au concept de littérature du monde. Donc, c'est un concept Weltliteratur que Martin Bodmer trouve chez Goethe, qui lui-même était épris de cosmopolitisme, qui haïssait les fanatismes et les replis patriotiques et tout ce que ça implique de surdité, de cécité à l'égard des autres littératures. Alors, l'idée de cette collection, c'est de rassembler le meilleur de la pensée humaine mise par écrit, de toutes les nations, de toutes les époques, pour laisser entendre que, en fait, l'humanité, quelles que soient les différences, l'humanité a toujours tâtonné autour des mêmes questions fondamentales sur le sens de la vie, sur la vie après la mort, des questions religieuses, des questions de pouvoir politique, du régime politique idéal, etc. Il a tout collectionné, mais ce qui est tout à fait caractéristique, c'est l'effort particulier sur les traductions. Tous les grands textes de chaque civilisation, de chaque culture, culture est représentée en propre dans un document le plus prestigieux possible, le plus proche du moment de sa création et de l'inspiration qu'il a vu naître. Mais ensuite, Martin Bodmer suit l'évolution des grandes traductions qui donnent une vie féconde à la postérité de chaque texte. Donc les traductions sont fondamentalement considérées comme des ajouts, des plus-values, des enrichissements, et ce ne sont pas des affaiblissements.
Alors c'est impressionnant, hein. Je crois que vous avez 150 000 pièces, 200 manuscrits, j'ai bien lu le... Voilà, 2000 autographes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
30 000 éditions rares ou précieuses, du 16e au 20e.
C'est ça. Donc 200 manuscrits médiévaux sur parchemin ou sur papier.
Occidentaux et 100 orientaux.
Oui, exactement.
Voilà. J'ai bien lu le livre que vous m'avez offert.
Oui. Alors, beaucoup sont déjà digitalisés. Donc, à côté de conserver, de conditionner, de restaurer ces biens dont nous avons la charge, avec une vraie mission à l'égard de l'humanité, on peut le dire, puisque c'est comme ça que se définit le label Mémoire du Monde, qui nous vaut la confiance de l'UNESCO, eh bien, pour les mettre à portée des lecteurs et ne pas dormir sur notre trésor en le laissant inaccessible, eh bien, nous avons des entreprises ambitieuses de numérisation de notre fonds. Et ça doit se faire, évidemment, dans des conditions particulièrement protégées, particulièrement soucieuses de ne pas abîmer les documents. Et c'est pour ça qu'on a des machines extraordinaires, deux machines différentes, l'une où il n'y a que une autre en Suisse, c'est à la bibliothèque de l'abbaye princière de Saint-Gall, et donc nous partageons l'ensemble de la Suisse pour ce qui concerne la numérisation des documents médiévaux. La moitié de la Suisse se fait numériser à Saint-Gall et la moitié se fait numériser chez nous à Cologne.
Alors, je crois que vous avez aussi 117 objets d'art.
Oui, alors pour Martin Bodmer, c'est vraiment l'écrit et la littérature qu'il collectionne, mais il y a toujours des documents qui relèvent des arts visuels qui sont en lien direct avec la collection. Si on prend Goethe, qu'on a déjà mentionné comme le grand héros qui dicte sa conduite en matière de culture à Martin Bodmer, eh bien, Martin Bodmer a tenu à acquérir un magnifique portrait de Goethe, du peintre Kolbe, qui toute sa vie a été au-dessus de lui, sur son bureau de travail, et qui l'a inspiré. Il en va de même pour Dante, puisque, pardonné du peu, il a acquis non moins que le portrait de Dante de Botticelli, l'original de 1495.
Oui, c'est magnifique, oui. Il faut absolument aller voir ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, Jacques, vous avez choisi des musiques de jeune homme, puis-je dire ça ? Alors, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, le premier morceau, je suggérais un morceau qui tonique, nous rappelle les Rolling Stones. Les Rolling Stones, j'ai été évidemment affecté du décès du batteur Charlie Watts récemment, et c'est plein de souvenirs pour eux. J'ai eu la chance d'aller les écouter en concert près de Zurich, à l'aéroport militaire de Dübendorf, et c'est un très très grand souvenir. Mais j'ai très très souvent suivi également toutes les captures filmées de nombreux autres concerts qu'ils ont donnés.
Et là on écoute.
Oui. Alors c'est Paint in Black.
Goes. I see a line of cars and they are painted black. hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur avec le professeur Jacques Berchtold. Vous avez vu qu'il est à la tête de cette fabuleuse fondation Martin Bodmer, et qui a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, mais 150 000 pièces, et des plus rares, du 16e au 20e siècle. Il y a même, je crois, Jacques, une première édition de la Bible de Gutenberg, c'est ça ? Qui a été sorti, j'ai bien lu votre livre, des trésors du tsar de Russie.
Oui, alors c'est un des très grands trésors qui est conservé à la Fondation. Et cette pièce se caractérise par le fait que nous le montrons en permanence. Il y a deux volumes. C'est le tirage de 1452, donc c'est le premier tirage. Une fois la Bible imprimée, il a fallu 2 ans pour les enlumineurs pour en plus faire ces magnifiques enluminures que sont les majuscules en début de paragraphe. Alors c'est un chef-d'œuvre absolu. Historiquement, c'est extrêmement émouvant puisqu'il y aura un après et un avant l'invention de l'imprimerie. C'est une révolution copernicienne, puisque les documents qui étaient si vulnérables, et Dieu sait si la Fondation est sensible à cette vulnérabilité, le musée du livre et la bibliothèque que nous sommes se souvient des bibliothèques éphémères, la grande bibliothèque d'Alexandrie, à qui nous avons consacré une très très belle exposition. Elle rassemblait toute la littérature de toutes les cultures du temps de la postérité d'Alexandre, et voilà qu'elle a été détruite. Même chose pour celle de Bagdad, même chose pour celle de Constantinople, et nous sommes extrêmement sensibles à cette précarité, et nous avons certains documents qui sont des unicum, c'est-à-dire que sans eux, le texte serait perdu. Il n'y a plus qu'une seule version. Mais pour revenir à la Bible de Gutenberg, c'est le moment où il y a une sorte de promesse, d'espoir, de possibilité nouvelle de diffuser tel ou tel texte sur une plus large échelle et donc de multiplier les chances de sa sauvegarde. Puisque plusieurs destinataires pourront bénéficier de tel ou tel texte. Alors, c'est une invention qui a pris du temps. Les premiers livres imprimés ont coûté beaucoup plus cher à fabriquer que un manuscrit. C'est simplement absolument magnifique. Donc, Gutenberg travaillait à Mayence, à Strasbourg, également. Et donc, la Bible... Que nous avons a une histoire tout à fait étonnante. Elle a été d'abord dans le couvent de Rothenburg qui a passé à la contre-réforme, qui est quelque part entre Munich et Stuttgart, et c'est du coup la Bible la plus décorée, l'exemplaire le plus décoré qui soit. C'est-à-dire que, alors que la Bible de Gutenberg va jouer un très grand rôle pour répandre les idées de la réforme, et précisément Martin Luther aura comme dogme qu'il faut s'intéresser à l'esprit de la lettre, et pas du tout à l'ornementation, qui est une distraction presque satanique, puisqu'on prend du plaisir à autre chose qu'à la substance de la parole de Dieu, voilà que dans ce couvent, on va au contraire gratter les enluminures d'origine et en rajouter, c'est la Bible la plus couverte de dorures et de dorures tapageuses, mais très très fines quand même, qui soit. Et voilà que quand Napoléon perd définitivement la guerre. En 1815, les princes allemands font un peu l'inventaire de toutes les Bibles qui sortent de ces couvents qui sont désormais sécularisés. Ça, c'est un des bénéfices de Napoléon, la sécularisation de beaucoup de ces couvents des principautés allemandes. Il y a trop de Bibles et on accepte de la vendre au tsar de Russie. Donc ça a été la seule Bible de Gutenberg, magnifique, qui pendant toute la seconde moitié du 19e siècle était la Bible du tsar de Russie. Voilà qu'en 1917, révolution bolchevique, ça devient la Bible du peuple soviétique, et c'est Staline qui a terriblement besoin d'argent avec tous ses projets. La Russie est sortie appauvrie de ses révolutions et après la Première Guerre mondiale, donc le jeune Staline, entre 1928 et 1931, va charger Christie's à Londres de vendre cette Bible, et Martin Bodmer peut l'acquérir. En 1931, il a 32 ans, il a acquis cette Bible de Gutenberg, qui a un pédigré extraordinaire, donc, et qui est en permanence montrée dans une vitrine faite sur mesure pour elle par Mario Botta. Donc c'est la seule Bible de Gutenberg qui soit conservée en Suisse, c'est à peu près la seule qui soit en main privée, alors que toutes les autres exemplaires qui ont pu survivre sont dans des bibliothèques institutionnelles, le plus souvent nationales ou étatiques. Donc c'est un trésor absolument magnifique, et beaucoup de visiteurs viennent pour voir cette Bible.
Uniquement pour voir la Bible
de près, oui.
Oui, on comprend très très bien.
Oui.
Mon cher Jacques, on va à nouveau écouter un peu de musique. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, c'est pour nous remettre un tout petit peu des rythmes trépidants des Rolling Stones, quelque chose de beaucoup plus doux. Ce que j'appréciais chez Christophe, là aussi on peut se souvenir qu'il est mort assez récemment, là, il nous a quittés l'année passée, c'était un très très grand musicien, c'était quelqu'un qui, à côté de la beauté des textes, accordait une importance extraordinaire au son, et ça a été un chercheur de son jusqu'à la fin de sa vie. Donc il n'était jamais content, il était perfectionniste, et autant je me souviens dans ma petite enfance avoir été ému aux larmes par Aline, autant ensuite de suivre sa quête de sonorité a été un vrai plaisir. Alors ce sera Les Mots Bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent, une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Sans parole, n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec le professeur Jacques Berchtold, le directeur de la Fondation Martin Bodmer. Mon cher Jacques, on vient de voir longuement la Fondation, les trésors, enfin en tout cas un trésor extraordinaire qu'elle contient. Mais je voudrais savoir maintenant, vous-même, comment êtes-vous arrivé jusqu'à la Fondation? Quel est votre parcours? Alors je vais vous poser la question rituelle, quel petit garçon étiez-vous?
Oui, alors merci beaucoup. Ce qui est assez incroyable, si on évoque ce temps très lointain de l'enfance, c'est que j'habitais peut-être à 15 minutes à pied de la Fondation Bodmer et à 3-4 minutes en voiture. Donc je suis juste à côté, à Chêne-Bougerie, et j'ai grandi à Chêne-Bougerie, j'étais à l'école primaire de Chêne-Bougerie, auparavant à l'école enfant.
Vous étiez bon élève ?
Oui, alors à l'école primaire, j'étais très très bon élève.
Ensuite, et après
au cycle et au collège, c'était nettement moins bon. On ne pouvait pas lutter face aux filles. Hein. Les filles étaient vraiment les meilleures de classe. Et,
les filles, c'est plus sérieux.
Oui, hein. c'est beaucoup plus sérieux. Je vois ça également.
À la génération actuelle.
Ma propre fille est bien meilleure qu'ont été les deux garçons. Alors, j'ai fait toutes mes études à Genève. Donc, j'ai fait le collège Calvin. Et puis, à l'université de Genève, j'ai fait la licence de lettres en étudiant à la fois la littérature française et la germanistique, donc les lettres allemandes. J'ai occupé un certain nombre de postes, donc c'est une profession où si l'on est prêt à voyager, on trouve de magnifiques postes, et ça a été mon cas. Donc j'ai commencé par un mandat important à l'université de Berne. Je revenais périodiquement à l'université de Genève, mais disons, il y a eu des sauts très marquants à Yale, donc à New Haven, à Johns Hopkins, donc à Baltimore.
Et donc aux États-Unis.
Aux États-Unis. Alors j'ai adoré les États-Unis, où j'aurais pu rester, mais je suis aussi passé comme pensionnaire à l'Institut Suisse de Rome, et donc là aussi c'était une ouverture formidable. On peut se rappeler que pendant des siècles, toute personne lettrée ou qui était amoureuse de l'art devait passer par l'Italie pour se former le goût au contact de Raphaël, de Michel-Ange et autres, Léonard de Vinci.
Donc vous avez fait votre voyage en Italie,
voilà,
Jacques.
Voilà, j'ai fait mon voyage en Italie. Et puis ensuite, c'est en France que j'ai atteint le titre de professeur. Donc, à partir de l'an 2000, j'étais professeur ordinaire à l'université de la Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3. Je suis resté 8 ans à la Sorbonne Nouvelle, qui est une formidable université, qui est issue de mai 68, donc qui était plutôt, disons, progressiste sur le plan politique, mais aussi sur le plan des méthodes, et donc je m'y sentais très bien. Après, par le jeu des affinités et des amitiés, donc on m'a proposé de passer dans ce qui était à l'origine la Sorbonne, beaucoup plus traditionnelle, ce qui s'appelait à l'époque Paris 4, qui maintenant s'appelle Sorbonne Université tout court. Et j'ai été également professeur pendant 8 ans dans cette Sorbonne plus vénérable, plus solennelle, peut-être plus conservatrice.
On n'enseigne plus en robe quand même.
Non, alors on n'enseigne plus en robe. Les choses ont tendance vraiment à s'égaliser maintenant, et je dirais que dans quelques années, on ne verra pas de différence de mentalité, d'idéologie entre les deux Sorbonnes.
Qu'est-ce que vous enseignez alors à ces étudiants?
Alors que ma production était vraiment hétéroclite et plurielle, parce que c'était un tout petit peu ce qu'on nous enseignait ici à Genève, les grands maîtres que j'ai eus, que ce soit Michel Butor, que ce soit Jean Staromanski, Georges Steiner ou Bernard Böschenstein, Roger Dragonetti, toutes ces grandes personnalités ne s'interdisait pas de publier sur des sujets extrêmement variés. Alors, en France, c'était très différent. Il y a des petites chapelles, c'est-à-dire il y a des précarés, et j'ai dû me décider pour une spécialité, et comme je venais de Genève, c'est surtout ma casquette de rousseauiste qui était attractive. Je venais de la ville de Rousseau, et j'avais été formé par les très bons 18e-istes que nous avions à l'université de Genève. Donc ça a été sur ce créneau qu'on m'a demandé d'enseigner, et j'ai fait tous mes enseignements sur la littérature française du siècle des Lumières, avec un poids tout particulier sur l'étude de Diderot et de Rousseau.
C'est formidable, parce que vous enseignez toujours, je crois.
Oui, alors
comment est-ce que vous arrivez à tout concilier?
Alors, je suis détaché de la Sorbonne, donc je donnais, depuis que je suis directeur de la Fondation Martin Bodmer, depuis 2014, je donnais chaque mois un séminaire de recherche pour les doctorants, avec des collègues, et voilà que, à cause du Covid-19, ça fait maintenant une année et demie que la chose est un peu suspendue, mais elle devrait reprendre en 2022. Et puis, je donne aussi en appui ici à l'Université de Genève. Je suis rattaché à l'Institut Éthique, Histoire, Humanité, de la faculté de médecine, donc des cours sur les grandes idées de l'humanisme qui ont accompagné les progrès de médecine. Donc il y a eu des cours sur Faust, sur Frankenstein, sur Paracels, sur Rabelais médecin, sur la satire des médecins chez Molière, etc. Quelque chose qui est un peu pluridisciplinaire.
Mon cher Jacques, vous êtes un homme multicasquette, alors, si je comprends bien. On va écouter maintenant Amy Winehouse. Qu'est-ce qu'on écoute?
Oui, alors, je n'ai pas fait exprès, mais voilà encore quelqu'un qui nous a quittés récemment.
Et ça, puis, très prématurément, alors, exactement. Et très tristement.
Et là, Back to Black, c'est une chanson infiniment émouvante. C'était une très très grande créatrice, c'est une chanteuse surdouée, mais qui également a nourri sa créativité d'une souffrance dont elle se serait évidemment bien passée. Alors, Back to Black, c'est d'actualité pour presque toute la littérature. La littérature est nourrie de mélancolie, de nostalgie, d'expression de la souffrance. Et jeter une passerelle entre Dante et Amy Winehouse, ce serait de l'acrobatie. Mais disons que là aussi, nous avons avec Dante un amour impossible pour Béatrice, ou chez son quasi-contemporain, chez son successeur Pétrarque, les plus beaux poèmes d'amour qui soient sont nourris de la souffrance de l'amour impossible pour Laura. Et elle-même, donc, quand elle dit « je retourne », voilà, toi tu t'en vas, tu retrouves quelqu'un, et moi je retourne au noir fondamental. C'est quelque chose de très touchant et qui parcourt toute l'histoire des élégies et de la poésie lyrique de l'Occident et du monde entier.
On l'écoute ?
Volontiers. Get on without my guide.
êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur, avec le professeur Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer, qui aussi a enseigné en multiples endroits et, dans sa grande modestie, a oublié de citer également Harvard. Mon cher Jacques, maintenant, je voudrais parler de l'exposition qui a lieu en ce moment même à la Fondation Martin Bodmer et qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Racontez-nous.
Oui, merci. Donc, il y a une occasion qui est une commémoration. C'est cette année le 700e anniversaire du décès de Dante, et on est tout proche puisque c'était le 14 septembre 1321 qu'il décède à Ravenne. À l'occasion de cet anniversaire, il y a des commémorations nombreuses sur la planète. Disons que c'est à Rome, à Florence, à Forlì, à Ravenne qu'il y a les principales expositions en Italie. Mais nous avons l'honneur de présenter l'exposition la plus ambitieuse hors de l'Italie. Et ça nous a valu le soutien et les compliments de l'État italien plus particulièrement du consul d'Italie. Donc, pour Martin Bodmer, Dante était un des cinq géants qui ont tout transformé, et il avait une conception goethéenne du génie, celui qui synthétise tout son temps et qui, par son œuvre, parle au fond au nom de la collectivité, reflète la sensibilité d'une période particulière, et parmi ces cinq géants, Dante occupe la position médiane. Il est le
troisième.
Alors,
quels sont les autres ?
Alors, les autres, c'est Homère qui embrasse toute l'antiquité païenne et qui est en quelque sorte séminale et matricielle.
Mais Homère a vraiment existé ?
Alors, Homère, oui, a existé. Il a été ensuite, malheureusement, rigidifié par les philologues qui, peu à peu, ont voulu établir le vrai texte homérique, alors que c'était une puissance de parole tout à fait plastique qui vivait de l'oralité. Mais disons qu'il est au seuil de la pensée grecque, alors que Dante va en quelque... Alors, le second texte, c'est la Bible, avec de multiples auteurs, et Martin Bodmer a collectionné énormément de Bibles dans toutes les langues possibles, il y en a en 122 langues. Donc, Dante se situe en position axiale. Il est celui qui vient après l'Antiquité romaine et l'Antiquité grecque et qui a tout ce bagage de la philosophie séculière, on peut dire, de la philosophie profane, mais qui en même temps connaît toutes les querelles autour du christianisme, c'est-à-dire toutes les familles du catholicisme, et son œuvre va refléter cette richesse, cette polyvalence. C'est un créateur extraordinaire, et son poème le plus connu est la Divine Comédie, qui est une synthèse de ce mariage entre l'antiquité païenne, la pensée chrétienne, et c'est plus qu'un regard rétrospectif, puisque ça pose également des problématiques qui vont ensuite nourrir la modernité. Donc, par exemple, en choisissant l'italien, alors que tout auteur qui voulait avoir l'espoir d'avoir une couronne de laurier et d'être reconnu comme grand poète devait écrire en latin, eh bien, en choisissant l'italien, il ouvre une brèche extraordinaire pour toute l'Europe. Et quand Luther mènera son combat pour que l'écriture sacrée, la Bible, soit également en langue vulgaire, il y aura ce grand précédent des poètes italiens, Dante le premier, suivi bientôt par ses suiveurs, Boccace et Pétrarque, qui vont à leur tour préférer l'italien au latin. Donc un penseur extrêmement profond qui dépasse de loin le cadre de l'Italie, a fortiori le cadre de Florence. Parce que c'est ça qui est extraordinaire chez Dante, c'est que c'est à la fois ancré dans une réalité tout à fait locale, les querelles à Florence autour des questions de pouvoir, est-ce que c'est le prince qui a plus de pouvoir, est-ce que c'est le pape, est-ce que c'est le représentant de l'Église, dans une Italie qui est totalement morcelée, il y a non seulement 12 provinces, mais 12 dialectes.
Justement, c'était ma question, Jacques.
Oui.
Quel italien ? Dans quel italien ? Parce que l'italien n'existait pas avant Cavour.
Absolument.
Avant 1860.
Non, il en va de même pour ce qui va devenir l'Allemagne plus tard. Donc, il y a des dialectes et voilà que Dante va s'en amourer du toscan. Il va l'aimer, mais il va le travailler.
Qui n'est pas la base de la langue italienne, hein, je crois. C'est le génois.
Il va travailler le toscan. La langue de Dante aura cette puissance d'influencer ceux qui le parleront. Il y aura des générations et des générations de Florentins qui réciteront du Dante par cœur. Et cette langue, en effet, vous avez raison, Dante était à l'écoute des autres dialectes. On reconnaît même des traces du dialecte de Sicile. Il était vraiment un amoureux des différences de dialectes et les prenait en considération. Mais par la force de son poème, il va imposer ce toscan transformé qui est tout à fait lisible encore par un italien d'aujourd'hui. Et donc c'est quelqu'un qui va marquer l'unité nationale plus tard, c'est le grand poète, il dépasse tout autre écrivain en Italie, alors que au moment même où il écrit, c'est les querelles à Florence qui le font réfléchir, mais c'est aussi sa condition essentielle d'exilé. À partir de 1302, il est exilé hors de Florence. S'il revenait, ce serait le bûcher ou la condamnation à mort qui l'attendrait.
Pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? C'est qu'il il y avait des partis. Il était ce qu'on appelait un guèbre blanc, et donc il était plutôt favorable à donner un pouvoir important au pape. Mais voilà que le parti des gibelins et des guèbres noirs s'unissent pendant qu'il est en ambassade auprès du pape, et on prend le pouvoir alors qu'il n'est pas là, et lui et ses amis, notamment le père de Pétrarque, ne peuvent pas rentrer à Florence en revenant du Vatican, car ce serait une mort certaine. Et donc, on ne connaît pas très très bien ces errances qui, entre 1302 jusqu'à sa mort en 1321, vont faire de lui un vrai juif errant, on peut dire, un vrai nomade. Ça commence à Forlì, on sait qu'il était à Bologne, il était à Padoue, probablement à Paris. Il a fréquenté des intellectuels, il a lu énormément, mais ce qui est singulier, c'est que il n'était pas un clerc, il était un laïc, il n'était pas de grande condition, il était tout à fait modeste, ce qui fait qu'il n'y a aucune trace, pas de trace dans les cours où il s'est réfugié, pas de trace dans les bibliothèques qu'il a fréquentées, parce que quand on le lit, on sait qu'il a énormément utiliser toutes sortes d'ouvrages, et c'est une section très très importante de notre exposition que de restituer la bibliothèque plausible qu'il a utilisée.
Il a quand même été peint par Botticelli. C'était quand même quelqu'un de grande condition qui était peint par ce peintre tellement connu à l'époque.
Alors, c'est bien que vous le mentionniez, parce que précisément, cette peinture maintenant infiniment célèbre et qui pour nous a fixé le visage de profil de Dante à tout jamais, voilà que c'est une pure invention de Botticelli.
Ah bon ?
C'est-à-dire que c'est en 1495, donc on est 174 ans après la mort de Dante,
il n'y a qu'une
représentation, celle de Giotto, qui soit un peu plus ancienne, mais dans tous les cas, ce sont des visages qui sont inspirés au peintre par la lecture de l'œuvre. Donc Botticelli avait fait 46 illustrations absolument prodigieuses qui sont conservées pour une partie au Vatican, pour une autre partie au cabinet des estampes à Berlin. Eh bien, Botticelli connaissait par cœur la Divine Comédie, il l'avait illustrée, et le portrait qu'il a fait de Dante lui est inspiré par sa lecture du texte de Dante. Et ça n'est pas du tout un visage qui
c'est
est
pas
connu.
Un portrait,
non,
en fait.
c'est pas un portrait.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Jacques ?
Alors, la dernière chanson, c'est un des plus beaux compositeurs de chants d'amour. Et de nouveau, puisqu'on est là dans Dante, on ne peut pas parler de Dante sans penser à Beatrice. Eh bien, Francis Cabrel est un des plus grands compositeurs de chants d'amour de notre temps, que ce soit pour sa fille ou pour des amours pour des femmes qui ont traversé sa vie. J'ai choisi « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». C'est également la temporalité de l'amour pour Béatrice qui caractérise là quelque chose de solide et de constant dans la personne de Dante.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. s'envolera du même quai. Les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec le professeur Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer. Jacques, on a parlé de Dante, mais je voudrais que vous décryptiez en quelque sorte cette exposition, donc la fabrique de Dante, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des universitaires, qui n'ont pas forcément une très nette idée de qui était Dante et comment. Est-ce que vous pouvez juste expliquer le parcours? Alors justement, il y a ce cas écrit Dante, mais il y a aussi les livres dont il s'est inspiré. Racontez-nous ça.
Oui, alors tout à fait. En fait, on peut expliquer le titre qui finalement a été choisi, la fabrique de Dante.
C'est le nom de l'exposition,
c'est
je
le
rappelle.
Nom de l'exposition. L'idée fondamentale, c'est qu'on n'atteint pas l'essence de Dante du fait de l'absence totale de sources. Que ce soit manuscrit, autographe de Dante, il n'y en a pas un seul, il n'y a pas un seul écrit, même un billet, il n'y a pas une trace signée par Dante. Hein, c'est un peu comme pour Shakespeare ou comme Homère, vous disiez, est-ce que finalement il existe? On pourrait se demander si Dante n'est pas une fabrication. Tant il a passé partout sans laisser de traces. Il n'y a pas non plus de traces dans l'administration qui le concerne, ce qui fait qu'il y a réellement lieu de fabriquer Dante. Donc, nous avons trois sections. La première section, c'est les fabrications de Dante, quand on va redécouvrir Dante à partir du XVIIIe siècle, et puis alors succès phénoménal à l'âge romantique, au XIXe siècle, des auteurs vont se trouver ce héros des idées nouvelles contre la froideur du classicisme, contre les écoles qui étaient sévères et conservatrices, ce foisonnement, ce chaos de Dante, ces idées qui vont dans tous les sens, cette puissance visionnaire, l'imagination au pouvoir, c'est quelque chose qui était jugé de mauvais goût sous le classicisme qui a tétanisé toute l'Europe et qui tout à coup se libère. Donc on a des Dantes fabriquées par Byron, par Victor Hugo, par Madame de Staël. Elle est une pionnière absolue, notre Madame de Staël de Genève et de Coppet. Elle est une des premières à sentir dans son voyage en Italie la puissance de Dante et la modernité de Dante. Alors ça, c'est la première section, toutes les fabrications de Dante par des auteurs modernes, et ça va très très loin, puisque ça va jusqu'à Primo Levi, qui tient le coup quand il est à Auschwitz parce qu'il sait Dante par cœur, à Mandelstam, qui, quand il le plus grand poète russe, qui, parce qu'il connaît les exils intérieurs, l'expérience du goulag, s'identifie à Dante chassé de Florence également, et on pourrait multiplier les exemples. La deuxième section, c'est la bibliothèque plausible de Dante. on sait de façon sûre, parce que Dante cite ses sources, il héroïse les auteurs, il crée dans la Divine Comédie un panthéon de ses auteurs préférés, il les classe, il les chouchoute, il les met au purgatoire ou au paradis, ou ceux qu'il n'aime pas, il les met en enfer, etc. On peut reconstituer la bibliothèque qui est son bagage intellectuel, à partir de quoi son inventivité va lui permettre de dépasser cette érudition et de faire lui-même œuvre originale et nouvelle. Donc la deuxième section, on s'est amusé à respecter la numérologie. Première section, 33 auteurs du 18e à aujourd'hui marqués par Dante et qui fabriquent leur propre Dante très personnelle. Deuxième section, 33 livres qui sont la bibliothèque préférée de Dante. Il y a des théologiens, il y a des poètes, il y a évidemment Virgile qu'il va choisir comme guide pour l'accompagner dans sa descente aux enfers. Et donc, cela reflète les 33 chants de l'enfer, 33 chants du purgatoire. Et puis, dernière section, nous montrons la fabrique de Dante, c'est-à-dire les manuscrits les plus anciens de son œuvre et les premières éditions d'imprimés de son œuvre après l'invention par Gutenberg de l'imprimerie. Et ça va très vite. Nous parlions de la Bible de Gutenberg, qui est de 1452. La première édition de Dante, nous l'avons et nous la montrons, c'est 1472. Mmh. Alors, pourquoi il s'agit de nouveau de fabrication? C'est qu'aucun de ces textes n'est contemporain de Dante. Il ne reste pas un seul manuscrit contemporain de Dante. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un texte autorisé, puisque tout est posthume. Ce sont des philologues, des amis, des admirateurs qui ont établi les textes, qui ont établi les éditions avec un soin extraordinaire. Ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Nous montrons 3 manuscrits autographes, 2 sur parchemin, 1 sur papier de la Divine Comédie, qui sont d'une rareté, d'une beauté extraordinaire, mais nous montrons également 7 incunables, c'est-à-dire ses tout premiers imprimés. C'est comme si chaque ville italienne voulait était en rivalité pour produire le plus bel imprimé. Donc nous avons des livres extraordinaires de Florence, mais surtout de Venise aussi. C'est à Venise que travaillait l'imprimeur le plus magnifique, qui était Alde Manuccio. Et donc, cette dernière section, il s'agit non plus cette fois de 33, mais de 24 documents écrits. Toutes les principales œuvres de Dante sont représentées dans cette section. Pourquoi 24? Parce que au paradis, Dante a la vision de 24 intellectuels, 24 docteurs qui sont en quelque sorte la couronne, le cœur mystique de la pensée du christianisme. Les docteurs de l'Église, les pères de l'Église sont représentés dans cette couronne de 24 intellectuels panthéonisés. Alors nous avons 24 documents, tous plus beaux les uns que les autres. La règle du jeu que nous nous sommes imposée pour toute cette exposition, et pas seulement pour cette dernière section, c'est que tous ces documents proviennent de la collection de la Fondation Martin Bodmer.
Alors Jacques, j'ai une question. Il y a une poupée de jeteur de sorts dans cette collection. Vous pouvez nous raconter ça? Alors, ça c'est étrange.
Alors tout à fait. Alors c'est en dehors des 3 sections dont on parle, il y a une œuvre, je vous disais, il n'y a aucune trace qui reste de Dante et des passages de Dante sur le plan des papiers administratifs. On a chargé la société Dante à 4 ou 5 ans du jubilé que nous connaissons cette année, de dépouiller 800 kilos d'archives au Vatican.
Mon Dieu.
Et notre l'une des 2 commissaires scientifiques de notre exposition, donc il y a Michael Jacob, qui est le principal commissaire, mais l'autre, Paola Allegretti, est d'une part la personne qui connaît le mieux le fonds italien de la Fondation Martin Bodmer, parce qu'elle y a travaillé durant des années, mais par le poste éminent qu'elle occupe au sein de la société d'Antes en Italie, elle a participé à ce travail de fouille, d'exploration spéléologique dans les réserves du Vatican. Et voilà qu'elle a trouvé une pépite. C'est vraiment un scoop, c'est une découverte qui lui revient en propre. Il y a un moment, un acte notarié, on est tout près de la mort de Dante, il meurt en 1321, on est en 1320. De quoi s'agit-il ? D'un complot pour tuer le pape Jean-Paul II. Jean 22. C'est Jean 22 qui est un pape français qui est à Avignon, et les Médicis à Florence ne sont pas du tout contents de lui et auraient exploré la possibilité de le tuer à distance avec une sorte de pratique vaudou. Et cet acte notarié couche sur le papier les dépositions de personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans ce complot, et on les interroge sur une rumeur qui veut que ce très grand poète qui a fait la preuve qu'il avait des affinités avec l'enfer, puisque personne n'avait décrit dans un poème l'enfer avec une précision telle, la description toponymique, etc., est-ce qu'il n'aurait pas un pacte avec le diable, et est-ce que on n'aurait pas pu faire appel à lui pour tuer le pape par le biais d'aiguilles recouvertes de poison d'aconite, qui est une magnifique fleur bleue, mais qui donne un poison absolument mortel. Et donc, il y avait une poupée en argent qui était censée représenter le pape Jean 22, et avec sept orifices, qui sont nos sept orifices naturels, où on aurait pu enfoncer des épingles. En fait, le document dédouane Dante, il le disculpe, les dépositions qui sont recueillies disent « on sait bien qu'il y a une rumeur qui voudrait qu'on ait impliqué Dante pour obtenir cette mise à mort à distance du pape Jean 22, mais non, nous ne l'avons pas du tout mandaté pour ça, il n'a pas eu un contrat pour faire ça, et c'est une trace unique où il est question de Dante dans ce qui est au fond un procès de nécromancie.
Alors en tout cas, cette poupée en argent est étrange, mais elle relève non pas de la pratique vaudou, mais dans toute la France depuis toujours et jusque très récemment, puisque j'ai même vu ça du temps de ma mère en Périgord, on pique les poupées pour jeter un sort sur les personnes qu'elles sont censées représenter. Donc c'est pas vaudou, c'est éternel.
Voilà, alors vous me l'apprenez tout à fait. En sollicitant le terme vaudou, je faisais une analogie dans ce qui nous est familier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on préfère plutôt que de penser, ce qui est un peu effrayant, que c'est des pratiques dans nos campagnes, on préfère voir ça comme quelque chose d'exotique aujourd'hui.
Et, non.
Donc il y a ces pratiques dans d'autres civilisations aussi. Mais vous avez tout à fait raison de remettre l'église au milieu du village, si l'on peut dire, c'est-à-dire que ces pratiques-là, qui étaient en cause, qui étaient jugées démoniaques, qui étaient évidemment poursuivies et condamnées par l'église, eh bien, ces pratiques-là, c'était bien dans l'Italie contemporaine de Dante que ça avait cours, et voilà que on aurait souhaité tomber sur un document administratif qui parle de Dante en majesté, de l'incroyable succès de telle lecture à haute voix de Dante, de son poème récité à tel ou tel cours, mais pas du tout, c'est dans un minable petit complot de tentative de meurtre ratée contre le pape que l'on trouve une mention de Dante, même si ça ne conclut pas du tout à sa culpabilité.
Alors on va terminer sur ce sourire, Jacques, si vous voulez bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la fabrique de Dante et de la Fondation Martin Bodmer. C'est passionnant, j'espère que beaucoup de nos auditeurs viendront en masse maintenant que vous les avez éclairés, que vous leur avez expliqué cette fabrique de Dante. Et puis on remercie aussi notre réalisateur Olivier Steinmetz, et j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine exposition qui nous enchantera autant que celle-ci.
Alors un très grand merci Viviane pour cette invitation et merci pour votre écoute.
À bientôt. Au revoir Jacques.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.